RFI.
18h30 en temps universel, 19h30 à Niamey, 20h30 ici à Paris. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI.
Oui, c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent. Pendant 30 minutes, la première édition d'Afrique Soir de ce mardi vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Retour sur le rapt de 5 ressortissants indiens au Niger. Ils avaient été enlevés le 25 avril dans la région de Tillaberi lors d'une attaque djihadiste dans l'ouest près du Mali. 12 soldats nigériens, membres de l'opération antiterroriste Al-Ma'aou, avaient été tués dans cette attaque. Aujourd'hui, les autorités indiennes réagissent. Et puis une preuve de vie d'Eva Gressmacher. Il s'agit d'une photo de cette Autrichienne enlevée à Agadez en janvier dernier. Photo diffusée par un média nigérien qui semble attester de la bonne santé de cette septuagénaire installée au Niger depuis près de 30 ans. Début du retrait de la force de la SADC déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Les troupes de l'organisation régionale ont commencé à quitter Goma ce matin. Elles étaient repliées dans une base de la MONUSCO depuis la prise de la capitale du Nord Kivu par les rebelles de la AFC M23 soutenue par le Rwanda. Retour également inquiétant des islamistes d'Al-Shabaab en Somalie. Depuis le mois de janvier, ils multiplient les attaques et regagnent du terrain dans la partie du pays située au nord de Mogadiscio, la capitale. Alors que révèle cette nouvelle offensive? Élément de réponse à suivre. À suivre également, comme tous les mardis, une sélection musicale afro-urbaine, sélection signée Hervé Mondina alias DJ Facemaker.
Une sélection qui ira aux quatre coins du continent avec au programme le Burkina Faso, le Congo, le Nigeria et même la Réunion.
C'est à suivre dans une petite dizaine de minutes. 5 ressortissants indiens ont donc été enlevés le 25 avril dans la région de Tillaberi, mais on ne l'a appris qu'hier. 12 soldats nigériens ont été tués au cours de l'attaque. Bonsoir Pierre Firsion.
Bonsoir Zéphirin.
Les 5 ressortissants indiens travaillaient pour la construction du barrage de Kandaji.
Oui, ils étaient plus précisément chargés de la construction de la ligne électrique du barrage. Kandaji, c'est un ancien et immense projet de barrage hydroélectrique situé dans la zone des trois frontières. L'enlèvement a donc lieu vendredi dernier, non loin de la bourgade de Sakoira, dans la région de Tillaberi. Ce jour-là, le site est visé par une attaque djihadiste, alors que 26 travailleurs nigériens et 12 techniciens et ingénieurs indiens sont présents sur place. 12 soldats nigériens qui protégeaient les lieux sont tués lors de l'assaut, et les djihadistes enlèvent donc ces 5 hommes avant de prendre la fuite en direction de la frontière malienne toute proche, une zone au nord de la région de Tillaberi, sous le contrôle de l'EIGS. Les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué sur cet enlèvement, pas plus que l'ambassade de l'Inde à Niamey. Mais selon la presse indienne, le gouvernement de l'État du Jharkhand, d'où sont originaires ces ressortissants, a déclaré hier avoir intensifié ses efforts pour les faire libérer, et ce en collaboration avec le ministère indien des Affaires étrangères. L'ambassade de l'Inde au Niger aurait ainsi, toujours selon la presse indienne, pris contact avec les autorités nigériennes dans le but d'obtenir leur libération rapide.
Merci Pierre Firsion. Eva Gressmacher est bien vivante. On était sans nouvelles de cette ressortissante autrichienne enlevée en janvier dernier à Agadez au Niger. Une photo diffusée par un média nigérien semble attester de la bonne santé de cette septuagénaire qui vit au Niger depuis près de 30 ans. Le récit de Frédéric Garin.
Le regard franc est dirigé droit vers l'objectif, un chèche de couleur qui recouvre ses épaules et ses cheveux. La photo transmise aux médias en ligne Air Info donne l'impression d'une otage en bonne santé et donc toujours vivante après 108 jours d'enlèvement et d'un silence inquiétant. Une photo transmise selon nos confrères nigériens par l'organisation terroriste de l'État islamique au Sahel, et ce, le jour même du 74e anniversaire d'Eva Gressmacher. Eva Gressmacher, qui, de l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyée, a fait preuve d'un grand dévouement envers la population d'Agadez, notamment en ce qui concerne les femmes et l'éducation de leurs enfants. C'est ce qui a d'autant plus choqué sa famille et ses amis nigériens lorsqu'elle a été kidnappée de nuit à son domicile le 11 janvier dernier. Toujours selon Air Info, la ressortissante autrichienne aurait été déplacée par ses ravisseurs en plusieurs endroits de la zone entre Ansango et Menaka au Mali, avant finalement d'être retenue par ses ravisseurs à Adérambukane, à la frontière Niger-Mali. Là, elle aurait été rejointe par une autre femme enlevée le 13 avril, également à Agadez, la Suisse Claudia Abt, âgée de 67 ans.
Un récit signé Frédéric Garat. Et puis en France, la famille du jeune Malien tué vendredi dans une mosquée du sud du pays attend que justice soit rendue. Ce mardi, l'oncle de la victime a tenu une conférence de presse à l'Assemblée nationale où la gauche, qui dénonce le manque de soutien à la famille, a obtenu une minute de silence en sa mémoire. Gibril Tissé est au micro de Charlotte Urien Tomaka.
On est à la fois triste et en colère aussi. Triste de ce qui nous est arrivé parce que là, il était venu ici pour pas pour se faire tuer, quoi. Et c'était quelqu'un de bien associable qui était un modèle pour nous tous. Et c'était dans ces gentillesses-là toujours qu'il s'est fait assassiner lâchement par les criminels. Triste aussi à la fois des traitements médiatiques au début qui a été fait parce qu'ils nous ont fait croire au début que c'était des frères musulmans qui se sont assassinés. Et puis, comme disaient certaines, aussi les réactions tardives de certaines responsables politiques. Mais là, aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la justice soit faite pour notre neveu.
Un propos recueilli par Charlotte Urien Tomaka. Les troupes de la SADC, l'organisation régionale d'Afrique australe, ont commencé à se retirer ce matin de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un retrait négocié avec les rebelles de l'AFC M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord Kivu depuis fin janvier. Mais Alexandra Branjon, l'organisation régionale ne précise pas combien d'hommes ont quitté le pays ce matin.
Pas de chiffres pour des raisons de sécurité, indique un porte-parole de la SADC. L'organisation régionale confirme juste qu'il s'agit bien du premier contingent de la SAMI-RDC à quitter Goma, mis à part environ 200 soldats blessés évacués fin février. Ils sont partis tôt ce matin par la route, précise ce même porte-parole, dès l'ouverture de la frontière avec le Rwanda. Il s'agit d'un retrait progressif qui devrait s'achever d'ici fin juin, ajoute-t-il. Combien de soldats sont partis, on ne sait pas. Les effectifs de la SAMI-RDC n'ont jamais été communiqués, mais les analystes estiment qu'ils étaient environ 1300 sur le terrain. Composée initialement de soldats d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, cette force était déployée depuis décembre 2023 pour soutenir l'armée congolaise et empêcher la progression des combattants de l'AFC M23. Avec la prise de Goma par les rebelles en janvier, cette force de la SADC s'est réfugiée dans des bases de la mission des Nations Unies sans pouvoir en sortir. En mars, la SADC a donc officiellement mis fin à cette mission et a conclu un accord avec l'AFC M23 afin de permettre un départ progressif et sécurisé de ses troupes de la RDC.
Alexandra Branjon. C'est une résurgence qui inquiète celle des islamistes d'Al-Shabaab en Somalie. Depuis le mois de janvier, ils multiplient les attaques et regagnent du terrain dans le Hirshabel et le Galmudug, la partie du pays située au nord de Mogadiscio, la capitale. Vendredi dernier encore, ils ont brièvement pris d'assaut une base militaire avant d'en être repoussés. Alors que révèle cette nouvelle offensive ? Élément de réponse avec Florence Maurice.
L'objectif des Shebab semble clair, regagner les territoires perdus en 2022 lors de la vaste offensive lancée par le président Hassan Sheikh Mahamoud après son élection. À l'époque, 70 localités avaient échappé aux Shebab. Ils en ont repris une trentaine depuis le mois de janvier. Et parmi elles, certaines sont stratégiques, comme par exemple la ville d'Adan Yabal, reprise mi-avril, un important carrefour routier et logistique qui abrite une base de l'armée somalienne. Plutôt dans une position défensive l'an dernier, les Shebab cherchent à tirer profit du contexte. D'abord, une transition délicate au sein de la mission de l'Union africaine, avec en début d'année la naissance d'un sommes déjà en manque d'argent et d'effectifs. Une fatigue des bailleurs occidentaux, de plus en plus hésitants à financer des troupes en Somalie, mais aussi les faiblesses de l'armée somalienne. Elle reste très dépendante sur le terrain de l'appui de milices claniques que l'on appelle les Maawisley. En 2022, ces milices avaient largement contribué aux victoires enregistrées contre les Shebab, mais aujourd'hui, une partie d'entre elles sont réticentes à reprendre les armes en soutien au président Hassan Sheikh Mahamoud, fragilisé depuis une réforme constitutionnelle contestée.
Et dans ce contexte, les responsables de l'AMISOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, qui a pris le relais d'ATMIS au 1er janvier, estiment que la mission a besoin d'au moins 8000 soldats de plus que prévu en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Somalie. C'est ce qui ressort d'un rapport communiqué à l'issue d'une rencontre entre les différents pays contributeurs à cette mission qui s'est tenue les 22 et 23 avril à Kampala. Et pour aller plus loin, rappelons que 2024 précisément, le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Cette réforme souhaitée par la communauté internationale et portée par Hassan Cheikh Mohamud a contribué à renforcer les divisions au sein de la classe politique somalienne. Alors comment les Chebab peuvent-ils en tirer profit? Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, répond à Florence Boris.
Ces réformes ont divisé encore plus le champ politique somalien et ça a fini par affecter y compris des leaders qui sont originaires de la zone Hirshabelle, hein, c'est-à-dire Iran, Middle Shabelle et Galmudug. Vous avez des gens comme Cher Sherif qui sont originaires de Middle Shabelle, qui se retrouvent dans une opposition assez virulente avec contre Hassan Cher. Donc, il ne veut plus travailler avec Hassan Cher. Donc, les maoïstes de ces sous-clans-là ne travaillent plus avec Hassan Cher et donc ne font rien contre Shabab.
Donc, il est assez isolé, en fait. Et c'est une des manifestations.
Isolé. Il a des soutiens, mais effectivement, c'est pas un grand moment politique pour lui. C'est-à-dire que il a lancé l'offensive contre Shabab dans cette idée qu'il allait créer une unanimité. Mais le problème est que, non. Mais par exemple, ils ont essayé de prendre un autre endroit qui s'appelle Ouargadi, qui est important parce que là aussi, c'est carrefour routier important. Et puis, c'est tout près de l'endroit où les Turcs veulent installer une base pour lancer des satellites. Bon, ils y sont allés et ils se sont fait mettre dehors par les maoïstes au bout de quelques heures. Alors peut-être qu'ils réussiront à le prendre, mais peut-être qu'ils réussiront pas, parce que c'est pas la première fois qu'ils se font bouter dehors. Hein, donc il faut être.
Donc c'est exagéré de dire que Mogadiscio, que le pouvoir de Mogadiscio est menacé.
Oui, c'est exagéré. Si vous voulez, il y a effectivement un grignotage réel, mais si vous regardez les attentats dans Mogadiscio, c'est intéressant. Par exemple, pour le mois d'avril, il y a eu des attaques au mortier. Il y a pas d'attentat. Il y a eu un attentat contre Hassan Cher. Et la bombe a été déposée à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire qu'ils ont, contrairement à ce qu'ils faisaient avant, où c'était des véhicules, soit qui stationnaient, soit des véhicules béliers, bon, cette fois-ci, ils sont obligés de cacher les bombes dans les maisons. Et en fait, bon, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait le choix, qui est peut-être contestable, de surmilitariser Mogadiscio, c'est-à-dire que la logistique de Shabab est très difficile. Donc Mogadiscio va pas tomber, parce que d'abord, c'est assez bien protégé par l'armée, et puis surtout parce que si les choses redevenaient réellement très sérieuses, la population prendrait part, et je crois pas que la population serait derrière Shabab.
Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, avec Florence Maurice.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et comme tous les mardis, on accueille donc l'ambianceur d'Afrique Soir. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir l'oncle Zéphia.
C'est au pas de course hein, que l'on va découvrir votre sélection du jour qui commence avec la révélation congolaise Tengaishi.
Et même révélation congo-belge, comme ils disent, car Tengaishi est de la diaspora du Congo à Bruxelles. Il revient en force avec son nouveau single Boloko, sorti le 25 avril dernier chez Universal Music Polydor. On est en présence d'un titre hybride à urbain pop teinté de jazz électro qui raconte l'histoire d'un homme prisonnier de ses sentiments romantiques pour sa voisine. Ce morceau succède à Medusa, chanson en duo avec Fally Ipupa et vient confirmer l'ascension de Tengaishi comme l'un des artistes afro-urbains les plus prometteurs à suivre.
Le rouge te va mieux, j'avoue tes formes, vous dites mes pensées, je bats des forts, j'agis comme Adam, entre nous c'est fort, tu me vois comme un gant. Est à nous, le reste on s'en fout. Qu'on aille loin, oui j'y ai pensé. Les quatre sont en coup, qu'on a manigancé. J'en suis le commandant, j'en suis le commandant. Je sais qu'elle peut d'être pour moi. Mamie à mon mamie, elle peut d'être pour moi. Mamie à mon mamie, elle peut d'être pour moi. Boloko, baby, a tué nana boloko. Talent elle est maninga boloko. Ah, boloko. Kosa ya kuzunga na boloko.
Boloko, la voix de Tengaishi pour servir ce titre Boloko. Direction à présent l'île de la Réunion pour un duo inédit entre le rappeur LRB et le chanteur Bart.
LRB, le rappeur insulaire qui dévoile le single Bobo, premier extrait de son EP DIT prévu pour ce 2 mai. On y retrouve sonorités afro-urbaines et textes introspectifs explorant les blessures émotionnelles des humains. LRB et Bart ont tourné le clip dans les décors urbains et paradisiaques de la Réunion et Bobo est une collaboration qui souligne la capacité de LRB et Bart à fusionner leurs différents styles musicaux, offrant une dimension riche et nuancée à leur discographie respective.
Les diamants, les veux rider jusqu'à tard, utilise toute catapulie, les bons. Dans la colle, tu m'en elle est plus capable, c'est qu'il fait pas le cap avec qui les cons. Et ta bobo sur son corazon, elle voit que ça sonne, mais elle veut pas répondre. M'a vu aller passer dans la zone, la tête vers le sol, l'entrée de pied de la raison. Tu vois, on fait pas rien avec ton corps, mais plus on rock la route, plus au pied, tout va aller. Les loups se réveillent quand le village s'endort. On connaît pas la vraie villa où ça va le couler. T'es dans le mal à vouler, viens à rouler nos déos, faut faire passe la douleur. M'y accepte comme on les viens à rouler nos déos, faut faire passe la douleur. T'es dans le mal à vouler, viens à rouler nos déos, faut faire passe la douleur.
Voilà, après Bobo de LRB et Bart, eh bien, à chacun sa vie, chacun ses problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le rappeur burkinabé Smarty dans sa nouvelle composition.
Oui, Smarty qui poursuit son chemin d'auteur engagé et de poète du quotidien avec Chacun sa vie, un nouveau morceau sensible et profond qui traite des hauts et des bas de l'existence en rappelant que chacun vit sa propre histoire avec ses combats, ses joies et ses blessures sur une mélodie chargée d'émotions. Des mots simples mais puissants qui résonnent comme un appel à la compassion et à la tolérance, un témoignage personnel qui devient une œuvre collective tant elle parle à chacun.
Le temps s'en allait, des durs moments et des joies sans pareil. J'ai vu des grands qui ont chuté du sommet. Un petit vent et tu perds le sommeil. Mon art a fait de moi un prisonnier. J'ai votre amour mais pas celui de mon frère. Je prie mon Dieu qu'il vienne me délivrer. Je donnerai ma vie pour voir sourire ma mère. Je vis des chants qui gardent ma dignité.
Chacun sa vie du rappeur burkinabé Smarty. On va conclure, hein, Hervé, la sélection certifiée Afro Club du jour au Nigeria avec cette fois Davido et Victoria Monet.
Oui, Davido et Victoria Monet seront les figures incontournables des grandes vacances qui approchent avec leur collaboration Au Famille, un titre tropical et entraînant parfait pour animer les ambiances festives, extrait de l'album Five de Davido, sorti le 18 avril. Au Famille séduit par son rythme dansant propice à une écoute en boucle et le clip est une invitation au lâcher prise sur la piste de danse.
Voilà, c'est avec Davido et Victoria Monet que nous refermons les portes de l'Afro Club de ce mardi 29 avril avec à la présentation Hervé Mandina alias DJ Facemaker, une sélection disponible à la demande sur l'application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet rfi.fr, vous ne pouvez pas le rater, on a un joli onglet musique qui a fait son apparition. Je vous retrouve jeudi, Zéphira.
À jeudi, Hervé, merci beaucoup.
Et merci à vous deux, c'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir. Merci beaucoup, Zéphira. On vous retrouve à la mi-temps du match car dans une minute on va passer la balle au foot. Soirée exceptionnelle, Ligue des Champions ce soir sur Radio France Internationale avec la diffusion en direct et en intégralité de la première demi-finale aller de cette Ligue des Champions qui opposera les Anglais d'Arsenal au Paris Saint-Germain. Donc ne bougez surtout pas, hein, on revient dans une minute sur RFI pour suivre cette rencontre.
Demain sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard. Little Jaffna, le quartier tamoul du 18e arrondissement de Paris. Michael est un jeune policier chargé d'y infiltrer la communauté venue comme lui du Sri Lanka. Little Jaffna, c'est le premier film de Laurence Vallin qui a pour maître cinématographique Coppola et Scorsese. Il y tient aussi le premier rôle.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.